Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Veolia, Suez, c'est le grand dossier industriel du moment. Le premier veut s'offrir le second avec un gros chèque à la clé. Suez et Veolia, c'est eux qui gèrent notre eau, nos déchets, le recyclage. Ils pèsent des milliards d'euros et des dizaines de milliers d'emplois. Alors une fusion, pourquoi faire? Eh bien, on posera la question ce soir à la directrice générale de Veolia, Estelle Brakhlianov. Elle est notre invitée. Une pointe de nostalgie aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une plaque en mémoire de Jacques Chirac a été dévoilée un an après sa mort. Alors que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage Chirac? On en parlera avec les grandes voix à 18h30. Et puis entre 19h et 20h, c'est le club des idées comme chaque soir d'Europe Soir. Ce soir, l'autorité de l'État en question. Pompiers, enseignants, agents RATP, policiers, élus locaux, pourquoi sont-ils pris pour cible? Et pourquoi une telle défiance envers ceux qui nous protègent et éduquent nos enfants? La France malade d'un manque de respect. On en parlera très largement avec nos invités. Voilà pour le programme. Mais d'abord, place à l'info avec Isabelle Millet qui nous revient en grande forme. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Et après les zones rouges, voici les zones super rouges ou même écarlates. Le ministre de la Santé présentera tout à l'heure une nouvelle carte de France qui permettra aux préfets de prendre des mesures supplémentaires face au rebond de l'épidémie.
On verra quel est l'arsenal disponible, les restrictions susceptibles d'être mises en place et quelles sont les régions surtout concernées.
Le congé paternité va bien doubler pour passer à 28 jours, dont 7 obligatoires afin que tous les pères puissent le prendre, quelle que soit leur situation.
Une nouvelle politique d'accueil des migrants au sein de l'Union européenne, plus solidaire mais aussi plus ferme.
Et puis la disparition d'un monument de la gastronomie française, Pierre Troisgros, le légendaire chef étoilé de Roanne. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,62% à 4802 points.
La tendance météo avec Anissa, c'est réjouissant. Hein, des nuages, du vent et de la pluie.
Et bah c'est le menu parfait d'un automne. Attention sur le nord-ouest, demain nous attendons le premier épisode de vent fort de la saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le temps des décisions difficiles est-il venu? En tout cas, les mesures sanitaires vont sans doute se durcir encore un peu plus.
Oui, sans doute, puisque Olivier Véran doit faire des annonces d'ici une heure avec deux nouvelles zones rouges. On parle même de zones super rouges ou écarlates. Ça donne une idée de l'inquiétude des pouvoirs publics.
Anne Le Gall, très concrètement, on s'apprête donc à passer au niveau supérieur. Ça concerne qui? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, il devrait effectivement y avoir ce soir une nouvelle couleur rouge écarlate sur la carte de France, couleur qui correspond aux zones de plus fort niveau de circulation du virus. Paris et Marseille pourraient être concernés. Le point commun entre ces villes, c'est que le taux d'incidence du Covid-19 y est actuellement supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants, contre 94 en moyenne sur l'ensemble de la France.
Et du coup, quelles mesures pourraient être annoncées, Anne?
Alors, parmi les options sur la table que pourrait évoquer Olivier Véran, on parle de grands événements limités à 1000 personnes au lieu de 5000 actuellement, de l'interdiction de rassemblement dépassant 10 personnes sur la voie publique, de l'interdiction de vente d'alcool à partir de 20h. Les zones écarlates pourraient aussi s'inspirer des restrictions déjà mises en place à Bordeaux, Nice ou Lyon. Interdiction des soirées dansantes, y compris pour les mariages, sorties scolaires et fêtes étudiantes suspendues, par exemple.
Alors justement, vous le disiez, des mesures ont déjà été prises dans plusieurs régions, Marseille, Bordeaux, Lyon. Est-ce que dans ces grandes villes, Anne, il y a déjà des résultats?
Alors, ça fait presque 10 jours que les restrictions ont été annoncées à Bordeaux et Marseille. Et quand on regarde les courbes d'incidence du coronavirus autour de ces villes, les courbes redescendent effectivement, ce qui semble encourageant. Le virus est aussi un peu moins présent à Nice. Un bémol pour Lyon, cependant, on ne constate pas encore d'amélioration.
Merci pour toutes ces précisions. Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Et notez qu'à Bruxelles, le port du masque ne sera plus obligatoire à partir du 1er octobre, mais quand même fortement recommandé.
Une crise qui a particulièrement affecté, on le sait, le secteur des loisirs et de la fête. Les discothèques, par exemple, sont toujours fermées.
Et une centaine de patrons de boîtes de nuit et de salariés venus de toute la Bretagne se sont retrouvés aujourd'hui à Rennes pour alerter sur la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent, François Coulon.
Voyez, oui, ces professionnels de l'explosion des décibels ont choisi le silence absolu pendant une heure devant la mairie pour clamer leur désarroi. 25 000 foyers en difficulté, peut-on lire sur une pancarte. Témoin Jessica Chaplin, gérante de la discothèque Le Vogue à Lorient.
10 salariés au chômage, nous sans revenus, moi et mon mari, depuis le 14 mars. Aucune charge de payer, on attend les aides de l'État. 1500 euros par mois sur les 3 mois, c'est rien du tout. Ça paye même pas un loyer. Nous, on fait comment pour manger? Quand on y pense, ça fait peur.
Alors, certains des 150 patrons de boîtes de nuit bretonnes ont bénéficié de prêts garantis par l'État, mais pas tous. Cyril Copin, président du collectif régional.
5% des établissements ont déjà déposé le bilan, 21% sont en redressement judiciaire. Depuis 6 mois, nous n'avons plus de chiffre d'affaires et nous n'avons plus de rémunération.
Il y a des aides de l'État ?
Aucune pour l'instant. Certaines nous ont été promises le 24 juillet. Nous attendons toujours les protocoles pour pouvoir y accéder. Ces aides portent sur les mois de juin, juillet, août et nous sommes dans l'inconnu à partir du 1er septembre.
Voilà, nous sommes des pestiférés, dit une autre banderole en ligne de mire, l'émergence d'un mouvement national des patrons de discothèques en détresse.
Un reportage de François Coulon à Rennes.
18h04, c'est confirmé, dès juillet prochain, les papas français auront donc le droit de rester 28 jours auprès de leur bébé.
Oui, la France rejoint les pays européens les plus en pointe sur la question. Un mois, dont 7 jours obligatoires, précision aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
Avec l'objectif de favoriser la proximité et l'implication évidemment des pères dans l'éducation de leurs enfants.
Alors ce sont des arguments que comprend tout à fait François Asselin. Il est le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Mais il s'inquiète quand même. Comment les patrons vont-ils réussir à gérer ces nouveaux congés ?
Nous ne sommes absolument pas opposés au fait de pouvoir élargir les congés parentaux. Mais attention, dans la petite entreprise, eh bien, il y a des problèmes d'organisation tout à fait concrets qui seront sans solution. Lorsque vous êtes artisan boulanger, par exemple, que vous avez un seul salarié, que s'il vous quitte pendant 28 jours, que vous ne pourrez pas le remplacer, eh bien, vous n'avez pas de solution, sinon que d'essayer tant bien que mal de compenser, vous, l'indépendant, le boulanger, pour faire en sorte que vous puissiez continuer à faire tourner votre commerce. Lorsque vous êtes restaurateur, que votre chef de cuisine part pendant 28 jours, comment faites-vous ?
Voilà, François Asselin avec Olivier Samin du service économie d'Europe 1. On vient d'entendre ces arguments et pourtant, pour Hélène Périvier qui est économiste à l'OFCE, les patrons n'ont pas vraiment de raison d'avoir de telles inquiétudes.
C'est de toute façon une bonne chose, ça va dans le bon sens. L'allongement du congé paternité ou du congé second parent, c'est un droit social supplémentaire qui était étendu. C'est un progrès très intéressant. Le remplacement, évidemment, on n'est pas là pendant un mois, bon, c'est vrai, du congé maternité. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, tout ça se prévoit en amont. Hein. Quand on va avoir un enfant, le plus souvent, on l'anticipe plusieurs mois avant. Donc, en termes d'organisation du travail, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées assez facilement. Personne n'est irremplaçable pendant un mois. Voilà.
Hélène Périvier, économiste à l'OFCE, jointe pour Europe 1 par Eve Roger.
Dans l'actualité également ce soir, l'Europe au chevet de la politique migratoire.
On a vu ces derniers mois combien la situation était souvent compliquée, voire inextricable, et les divisions nombreuses entre les États membres.
Oui, il fallait donc trouver un compromis entre contrôle et solidarité. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La Commission européenne a donc présenté son pacte migratoire qui tient compte des rapports de force en Europe, avec l'accent mis tout de même sur la fermeté.
Oui, officiellement ici, les mots d'ordre sont solidarité et responsabilité, mais c'est clair que cette réforme de l'asile reflète avant tout la sensibilité des opinions publiques sur l'immigration et les nombreuses résistances sur le continent, ce que dénoncent d'ailleurs déjà les ONG. Exemple, avec le nouveau mécanisme de solidarité, fini les quotas obligatoires de migrants dans chaque pays, les pays de l'Est n'en voulaient pas, le vice-président de la Commission, Margaritis Kinas, en a tenu compte.
Nous avons cherché une solution entre les lignes rouges des uns et des autres. Et cela passe par un nouveau concept que nous avons baptisé « parrainage des retours ».
Voilà, les pays qui ne voudront pas de réfugiés pourront, à la place, prendre en charge les expulsions de ceux dont la demande est rejetée. À l'arrivée aussi, l'accueil devra être plus encadré. Tous les migrants seront enregistrés sous 5 jours. Ceux dont la demande paraît douteuse devront rester enfermés pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Au bout de 3 mois maximum, ils seront fixés et si nécessaire, renvoyés chez eux, explique la commissaire aux affaires intérieures Ylva Johansson.
Cela va créer une situation dans laquelle ceux qui savent qu'ils n'auront pas le droit d'asile réfléchiront à deux fois et même plus avant d'entrer illégalement en Europe. C'est clairement notre objectif.
Ces textes vont maintenant être décortiqués par les 27 États membres. Arriveront-ils à s'accorder après 5 ans de discorde ? Ça sera l'enjeu des prochains mois.
On suivra ça effectivement. Merci Isabelle Horry en direct de Bruxelles.
Oui, contrairement aux idées reçues, ce nouveau pacte migratoire pourrait diviser encore un peu plus l'Europe. On en parlera tout à l'heure avec les grandes voix à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
À suivre, 18h08 dans votre journal, la disparition d'un monument de la gastronomie française, le chef triplement étoilé, Monsieur Pierre Troigros.
Et puis l'Amérique qui se recueille devant la dépouille de la juge de la Cour suprême décédée vendredi dernier.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal Isabelle Millier à 18h10, le monde de la gastronomie, Isabelle, pleure ce soir l'un de ses plus grands chefs.
Oui, Pierre Troisgros, triplement étoilé dans son restaurant de Roanne dans la Loire, est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Une histoire de cuisine, bien sûr, mais aussi une histoire de famille, Jean-Luc Beaujon.
Et oui, car c'est avec son frère Jean qu'il monte son restaurant de Roanne, la maison Troisgros, à la fin des années 50, reprenant l'affaire de leurs parents Jean-Baptiste et Marie. Très vite, ils obtiennent leur première étoile au guide Michelin, puis la deuxième en 65 et enfin, 3 ans plus tard, en 68, la troisième étoile. Alors Pierre Troisgros, c'était une gastronomie de haut vol, de la grande cuisine classique à la française. C'est une grande perte, estime Georges Blanc, célèbre chef 3 étoiles à Vona dans l'Ain.
J'ai pensé avec beaucoup de tristesse. Pierre, c'était un des piliers de la haute cuisine française. Le plat marquant dans les années 68, quand ils ont eu leur 3e étoile, c'était le saumon à l'oseille, bien sûr, la côte de bœuf au fleuri. Voilà, c'était la grande cuisine française de l'époque, un peu classique. Vraiment, c'est un personnage légendaire. Il avait toujours un mot pour nous faire rire. Il racontait plein d'histoires. C'était un bout en train incroyable. C'était non seulement un artiste de la cuisine, mais il était d'une très agréable compagnie.
Et justement, la compagnie que Pierre Troisgros adorait, c'était celle de Paul Bocuse, une amitié de 70 ans entre les deux hommes et une même façon de faire la cuisine. Il y a 2 ans, c'était d'ailleurs lui qui avait pris la parole lors des obsèques de Monsieur Paul à Lyon. Avec la mort de Pierre Troisgros, c'est donc un nouveau monument de la gastronomie française qui s'en va, même si, là aussi, le témoin a été transmis, puisque c'est le fils Michel Troisgros qui est depuis plusieurs années déjà aux commandes du nouveau restaurant de Roanne, où travaille aussi le petit-fils César Troisgros. Vraiment, effectivement, c'est une histoire de famille.
Merci Jean-Luc Beaujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
De l'autre côté de l'Atlantique à présent, l'hommage de l'Amérique à la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg.
Oui, la magistrate icône féministe et progressiste décédée vendredi à 87 ans. Depuis une heure maintenant, les Américains peuvent se recueillir face à sa dépouille devant la Cour suprême. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, le cercueil de Ruth Bader Ginsburg, recouvert du drapeau américain, trône en haut du grand escalier, encadré par les immenses colonnes blanches de la Cour suprême où elle a servi pendant 27 ans. Une mise en scène très solennelle, à la hauteur du traumatisme provoqué par sa mort, explique Catherine McGregor, une américaine francophone originaire de l'Idaho.
C'est triste. Enfin, moi, j'habitais ici quand Kennedy est mort, en 62. Alors, ça fait un peu le même effet. C'est quelque chose d'énorme, une tristesse. C'était quelqu'un de bien que le pays a perdu.
La foule défile lentement au pied des marches. On marque une pause devant le cercueil. Certains ont apporté des fleurs, des panneaux remerciant la magistrate, icône des progressistes. Certains sont même venus de très loin, comme Kate, arrivée hier de Caroline du Sud. 6h30 de route, mais chaque minute valait le coup, dit-elle.
Sad, but also inspired.
Kate se dit à la fois triste et aussi inspirée.
Women's rights are under attack in our country.
Les droits des femmes sont toujours attaqués dans ce pays. Rose a commencé le combat, c'est à nous de le continuer, explique-t-elle, arborant son t-shirt avec le visage de la juge surmonté d'une couronne. Dans la file d'attente, c'est son remplacement probable par une juge ultra-conservatrice qui nourrit les conversations. Une mère s'inquiète pour l'avenir de sa fillette de 3 ans, déguisée en RBG avec une petite robe noire, un col en dentelle blanche et qui répète « Je suis Ruth Bader Ginsburg ».
Xavier Vaughan, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Il était hospitalisé depuis le 22 août à Berlin. Certains parlent d'un miraculé. L'opposant russe Alexei Navalny est donc sorti ce matin de l'hôpital. Et il pourrait finalement n'avoir aucune séquelle après son empoisonnement.
Il va pour l'instant rester en Allemagne pour la suite de son traitement. En tout cas, il a posté effectivement une photo de lui aujourd'hui sur Instagram. Et franchement, ça a l'air d'aller plutôt bien.
Le très controversé président biélorusse Alexandre Loukachenko a lui prêté serment pour un 6e mandat lors d'une cérémonie tenue secrète. C'est dire l'ambiance qui règne dans le pays.
Et l'Allemagne aujourd'hui refuse de le reconnaître, faute, dit-elle, de légitimité démocratique. Et puis, les tensions entre la Turquie et la Grèce, engluées dans leurs différents maritimes, Ankara et Athènes acceptent enfin de renouer le dialogue. Le président turc a cédé sous la pression, nous dira Didier François dans votre journal de 19h.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 18h30. Pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et ça ne s'annonce pas terrible pour le programme de demain. Du gris et du vent au menu.
C'est ça, un vrai temps d'automne demain avec un ciel gris, vous le disiez Julien, sur les 3/4 de la France, avec en début de journée une dégradation pluvieuse sur le quart nord-ouest, en Normandie, en Centre-Val de Loire, sur les Pays de la Loire. Il pleut demain matin, partout ailleurs c'est un temps humide, un ciel gris avec des petites averses. Et puis dans l'après-midi, les averses vont se généraliser avec sur les Alpes, la vallée du Rhône, le Limousin, les Pyrénées, la Normandie, des orages. Donc soyez vraiment prudents dans toutes ces régions. Le tonnerre va gronder, parfois même fort. Attention sur les côtes bretonnes et normandes. Le vent se lève demain, il va souffler fort. Alors c'est assez calme le matin et dans l'après-midi, le vent se renforce avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes normandes. Dans l'après-midi, le vent va s'engouffrer dans les terres pour arriver jusqu'en région parisienne. Là aussi, il va souffler fort. C'est le premier épisode de vent fort de la saison. On a l'habitude au mois, en automne, de vous parler de ces épisodes, mais là, il commence assez fort. Les températures, elles sont en baisse. 8 à 17 degrés demain matin, 11 à Paris. Et puis dans la journée, on va se couvrir. 13 degrés seulement à Saint-Brieuc, 15 à Quimper, c'est l'après-midi. Hein. 16 à Lorient, 17 à Paris, 20 à Bordeaux, 22 à Nancy, 24 à Lyon, 26 à Marseille et tout de même 27 degrés pour Ajaccio.
Bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. On a baissé quoi, de 10 degrés en 24 heures.
Oui, c'est ça, ça a été très très rapide et très brutal.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, dans quelques secondes, Veolia, Suez, on vous dit tout de la bataille qui se joue en ce moment entre les deux géants de l'environnement.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec ce soir à 18h19, notre invité, on s'arrête sur le dossier qui affole l'industrie française. L'offre de Veolia pour s'offrir à les activités de Suez et former un géant mondial des services à l'environnement. L'enjeu est absolument colossal, avec à la clé des dizaines de milliers d'emplois concernés. Bonsoir Estelle Brachlianoff.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Veolia. Veolia, c'est 180 000 salariés dans le monde, c'est 27 milliards de chiffre d'affaires. Je vais vous poser d'abord une question très simple et je vais vous demander, si possible, d'y répondre en quelques mots. Pourquoi vouloir à tout prix débourser autant d'argent pour vous offrir Suez alors que vous êtes déjà numéro un mondial de votre secteur ?
Merci de votre question. Et la réponse est simple, c'est pour cesser l'hémorragie parce qu'il y a urgence. Aujourd'hui, Suez est en train de vendre de façon accélérée ses actifs. Il a annoncé la semaine dernière la vente de tout ce qu'elle faisait en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas.
Oui.
Plus récemment, il y a deux jours, en Suède, on est en train de parler de 10 000 salariés
oui.
Concernés par ses activités. Et aujourd'hui, le démantèlement est en cours. Et ce qu'on peut dire, et vous avez raison, c'est que des activités qui intéressent beaucoup de monde. Ça a été vendu à Lidl. Le hard discounter que vous connaissez.
Donc vous dites que c'est une démarche altruiste, c'est pour sauver Suez que Veolia veut racheter les activités de Suez ?
C'est aussi une démarche parce qu'on ne veut pas que ça tombe entre n'importe quelle main, oui, et évidemment nous avons un projet industriel. Tomber entre n'importe quelle main parce que nous ne l'aurons pas aujourd'hui, il y a beaucoup de gens intéressés par ce type d'activité, il y a des technologies dedans, donc on peut parler des Chinois, des fonds d'investissement.
Tous regardent avec appétit. C'est stratégique.
C'est stratégique. Ça a commencé avec l'annonce par Engie qui possède 30% de Suez. 30%, c'est beaucoup. Mm-hmm. Et donc, il y a un vrai enjeu que ça ne tombe pas entre des mains autres que françaises. Pourquoi autres que françaises ? Parce que quand la situation va moins bien, être ancré en France, s'engager en France dans la durée, c'est quelque oui. chose qui compte, notamment pour les salariés.
Ça veut dire que si vous ne parvenez pas à mettre la main sur ces 30% de Suez, Veolia peut demain être en danger et se faire manger par un plus gros que lui, les Chinois par exemple. Parce que j'ai regardé votre marché, il est quand même très morcelé. Hein. Suez, Veolia mis ensemble, c'est simplement 5% du marché mondial. Donc c'est relativement peu.
Vous avez parfaitement raison. Si on prend une loupe dégrossissante, oui, je veux dire, oui. Et on regarde le marché mondial et pas uniquement le marché français, on est tout petit. Et Suez et Veolia, même si nous sommes respectivement numéro 1 et numéro 2 de ce marché. Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est de ne pas laisser se faire ce qui s'est passé sur le numérique il y a quelques années. On avait inventé en France le Minitel et pour autant, ce n'est pas nous qui sommes à la tête de l'Internet d'aujourd'hui, c'est des Américains.
Mais vous êtes numéro 1 du marché sur les services à l'environnement.
On est numéro 1 aujourd'hui, en effet, du marché, avec une filière française dont je crois on peut être très fier. Et donc oui, c'est un enjeu de souveraineté pour le pays.
Alors Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe du groupe Veolia, quelques questions précises. Votre groupe a annoncé tout à l'heure qu'il n'y aura pas de délai. La date limite de l'offre a donc été fixée au 30 septembre. C'est dans 7 jours. Est-ce que ça veut dire qu'en cas d'échec d'ici au 30 septembre, l'opération est annulée, l'opération est enterrée ?
D'ici au 30 septembre, alors pourquoi cette date ? Ça fait déjà, ça donnera 2 mois à Engie pour réfléchir à notre proposition. Oui. On a fait une offre, on l'a fait ouvertement devant tout le monde avec une garantie des emplois, avec le garantie que ce sera français dans la durée. C'est une très belle offre. Pourquoi le 30 septembre et pourquoi on ne veut pas la repousser ? C'est tout simple parce que je vous l'ai dit, le démantèlement il est en train
Mais
de s'accélérer.
Après le 30 septembre, c'est fini. Il y aura pas de...
Après le 30 septembre, on reprend notre liberté.
Vous reprenez votre liberté.
Toutes les options sont ouvertes.
Sur le prix proposé, votre patron Antoine Frérot s'est dit prêt à revoir son offre d'achat à la hausse. Il propose aujourd'hui 2,9 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 15,50 € par action. Jusqu'à combien vous pouvez aller.
Alors, c'est une très belle offre au niveau financier, mais le prix, je crois qu'on peut dire que ça n'est qu'une des composantes du projet. Le projet, c'est construire le champion mondial.
On dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est pas vrai chez vous ?
Je vais citer d'ailleurs le gouvernement qui, sous toutes ses composantes, nous a dit « il y a trois critères qu'on va regarder ». Et j'ai écouté ce que le gouvernement et les pouvoirs publics nous ont dit. Il y a le prix, oui, bien sûr, et l'État est actionnaire d'Engie et donc regardera cet aspect-là. Mais il y a aussi la souveraineté, donc il faut que la solution soit française et que l'on garantisse l'emploi.
Alors sur l'emploi justement, c'est l'une des grandes inquiétudes de ce rapprochement. Veolia, c'est 180 000 salariés, Suez, c'est environ 90 000. Les syndicats, eux, disent qu'en cas de fusion, il y aura au bas mot, 10 000 suppressions d'emplois, dont 5 000 en France. Et d'ailleurs, le directeur général adjoint de Suez le confirme. Il dit évidemment qu'il y aura une casse sociale. Nous avons des métiers en doublon. Que leur répondez-vous ?
Je leur réponds et je vous réponds, c'est un fantasme mensonger.
Oui, mais
on garantit.
Comprenez,
et je vais
madame,
vous expliquer
non,
pourquoi.
Je poursuis et puis après vous répondez. Comprenez que des garanties sur l'emploi, c'est ce qu'on dit à chaque fois quand il y a des fusions-acquisitions. C'est une promesse qu'on a fait chez General Electric. Il y a eu des suppressions d'emplois. C'est une promesse qu'on a fait chez Mittal. Il y a eu des suppressions d'emplois. Dans plein d'opérations de fusion et acquisition, on nous avait promis des garanties au pouvoir public sur l'emploi. Et puis au bout d'un an, au bout de quelques mois, au bout de deux ans parfois, il y a eu des suppressions d'emplois. Pourquoi alors, cette fois-ci, ce serait différent ?
Alors, je le rappelle, on garantit 100% des emplois, 100% des acquis pour tous les salariés. Donc, il y aura du boulot pour tout le monde. Dans ce nouvel ensemble, on a un projet qui est un projet de développement de la transition écologique. Mais alors, pourquoi ces arguments sont des arguments fallacieux ? Parce que revenons aux bases. Dans tous les exemples que vous avez cités, on est en train de parler d'outils industriels. Donc, on est en train de parler d'usines automobiles où on peut effectivement construire une voiture dans un pays ou dans un autre. On peut délocaliser. Les métiers de Veolia et les métiers de Suez sont des métiers qui ne sont pas délocalisables. C'est des métiers de service. Je vais vous prendre des exemples concrets.
Oui.
Aujourd'hui, on est en train de parler de services essentiels. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, que c'était d'ailleurs complètement au cœur de notre vie quotidienne. Quand vous avez un éboueur qui vient dans votre rue collecter des poubelles, vous avez un chauffeur et deux éboueurs derrière. Donc ça fait trois personnes par camion. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en changeant le logo sur le côté du camion, on aura besoin de plus ou moins de trois personnes ? Non, on a toujours besoin exactement des mêmes. Et ce n'est pas les éboueurs de Montauban qui vont aller...
Il n'y a pas le camion Veolia qui va remplacer le camion Suez.
Mais ça n'est pas la question, on a toujours besoin de trois personnes. La garantie de l'emploi, ce n'est pas un sujet de logo sur un camion.
Bien.
On a toujours besoin des trois personnes. Quand vous avez une station d'épuration, qui est aussi un des autres métiers du groupe, vous avez toujours besoin des mêmes personnes au même endroit. Vous imaginez bien que ce n'est pas les eaux usées de Montauban qu'on va traiter à Besançon.
Bien. J'ai une autre question sur la politique et puis après je voudrais vous entendre sur l'impact pour nous consommateurs. Est-ce que vous en voulez à l'État ? Parce que le gouvernement a d'abord dit, bien sûr, c'est une opération qui fait sens. On a entendu le Premier ministre Jean Castex qui a prononcé ces mots. Et puis après, il y a eu un rétropédalage de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Est-ce que vous en voulez à l'État pour parler clair ?
Alors, les pouvoirs publics ont toujours été très cohérents et très clairs dans tous les messages qu'ils ont passés aux différents niveaux et que nous avons entendus, j'ai entendu. C'est quoi ? C'est les critères selon lesquels ils regarderont les offres. Notre offre, mais les éventuelles autres contre-offres qui pourraient se présenter. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais elles pourraient venir. Et ces critères, c'est quoi ? C'est d'abord, pas d'abord d'ailleurs, c'est trois critères. C'est le prix. Alors, encore une fois, l'État est propriétaire d'une partie d'Engie, mais c'est aussi la garantie de l'emploi, on la donne, et c'est aussi la souveraineté française dans la durée, on la donne aussi. Donc en l'occurrence, notre projet y répond complètement à tout ce que l'État nous a dit de façon cohérente depuis plusieurs semaines.
Dernier élément, pour nous, consommateurs, on va rapprocher tout ça un peu du consommateur, nous Français, un seul groupe qui s'occupe de nos déchets, de nos poubelles, vous l'avez évoqué, de notre énergie, de notre environnement pour tous ces services que vous proposez. Outre la question de monopole, est-ce que ça veut dire que demain vous avez les mains libres, comme le disent certains, pour augmenter les prix pour les collectivités notamment et les clients industriels et donc au bout du bout, pour nous les consommateurs ?
Alors, non, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'eau en France avec cette opération. Tout simplement parce que le prix de l'eau, il est défini par les maires et les différents représentants élus.
Et la collecte des déchets ?
La collecte des déchets, c'est strictement la même chose. Il y a des appels d'offres qui sont passés pour choisir des opérateurs privés ou publics d'ailleurs. Et c'est les maires qui décident à la fin. Donc il n'y a aucun impact de ce point de vue-là. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je suis en train de dire que non seulement on garantit les emplois d'aujourd'hui, mais on est en train d'inventer en France
les emplois de demain, ceux de la transition écologique.
Est-ce que vous pouvez revenir à ce micro le 1er octobre ?
Je n'ai aucun problème, j'en serais très ravie.
Et d'ici là, peut-être que l'opération aura abouti. Merci infiniment, Estelle Brachlianoff. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Veolia et vous étiez donc en direct avec nous dans Europe Soir. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. Ce soir, l'immigration en question et puis Jacques Chirac. Qui en est aujourd'hui l'héritier ? À tout de suite, on en parlera avec les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres à 18h30 d'Isabelle Millet.
Et quelles nouvelles mesures pour faire face à la propagation du coronavirus ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, va présenter tout à l'heure une nouvelle carte de France avec davantage de rouge et même, paraît-il, du rouge vif et de l'écarlate avec, à la clé, bien sûr, de nouvelles restrictions qui pourront être décidées par les préfets. 2 semaines supplémentaires pour les futurs papas à partir de juillet prochain. La durée du congé paternité passera de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. L'Europe s'accorde sur une nouvelle politique migratoire commune avec un mécanisme de solidarité obligatoire entre les 27 États membres. Toutefois, les pays de l'Union ne seront pas obligés d'ouvrir leurs portes aux migrants. Ce soir, la France demande à l'Italie d'accueillir le navire humanitaire allemand et ses 125 migrants, le bateau qui fait pour l'instant route vers Marseille. Les défenseurs des abeilles, mobilisés sur l'esplanade des Invalides à Paris aujourd'hui, opposés au retour des néonicotinoïdes, ils demandent aux députés de ne pas voter le projet de loi voulu par le gouvernement pour sauver la filière betterave. Et puis la disparition à 92 ans de Pierre Troisgros, le chef rouennais triplement étoilé, celui qui a pris la suite de son père dans les années 50 avec son frère Jean, a révolutionné la cuisine et fait de la maison Troisgros un monument de la gastronomie.
Merci Isabelle, à tout à l'heure pour le grand journal de 19h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint dans le studio d'Europe Soir. Beaucoup de vent demain au programme, Anissa.
Oui, sur les côtes de la Manche particulièrement et sur la façade atlantique. Dès demain matin, le vent se lève, mais c'est dans l'après-midi que les rafales seront les plus fortes, jusqu'à 100 km/h sur les côtes normandes, avec des averses, évidemment. Hein, le vent ne vient pas tout seul. Sur les Alpes et la Corse, les orages risquent aussi d'être forts demain après-midi. Et partout ailleurs, c'est un ciel gris couvert avec des averses. Prudence si vous nous écoutez hein, sur les côtes du nord-ouest demain avec ce vent qui va s'engouffrer dans les terres dans l'après-midi pour arriver jusqu'en région parisienne. Les températures 9 à 18 degrés demain matin du nord au sud. Là, ça se maintient, c'est quasiment comme aujourd'hui. Mais alors demain après-midi, vous allez vraiment sentir la fraîcheur avec 13 degrés à Brest, 15 à Quimper, 17 à Lille, 19 à Clermont-Ferrand, 21 à Belfort, 23 à Lyon. Dans le sud, ça reste agréable avec 24 à Perpignan et 27 à Marseille.
Vous avez vu Charles comment il dit ça ? Vous allez vraiment sentir la fraîcheur et paf, bien fait.
Bim.
Merci Anissa.
Tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20. Julien
18h33, vous l'avez compris, c'est maintenant l'heure du débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés. Donc Charles Villeneuve, bonsoir Charles.
Bonsoir.
Et Michel Cotta, bonsoir Michel. L'immigration, pour commencer, l'Europe cherche sa voix. C'est le dossier du moment à Bruxelles. La présidente de la Commission a présenté aujourd'hui son pacte migratoire, on en parlait tout à l'heure dans le journal, pour gérer et répartir les migrants qui arrivent sur le sol européen. C'est un tour de vis qui s'annonce, durcissement sur les renvois de migrants et régulier, contrôle accru aux frontières, c'est aussi la fin des quotas.
Nous allons abolir le règlement de Dublin. Nous allons le remplacer par un nouveau système européen de gouvernance de la migration. Il y aura des structures communes pour l'asile et le retour. Et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité.
Voilà la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors rappelons peut-être, pour que chacun comprenne, que ces migrants, ils arrivent principalement en Grèce, en Italie, à Malte, et à Chypre, et que plusieurs pays européens ont refusé l'idée de quotas mis en place en 2015. Ça ne marche pas, a dit Bruxelles. Est-ce que c'est une victoire, en somme, des pays anti-immigration, Charles Villeneuve ?
Je le crois. Et on sait que les plus durs se trouvent à l'Est, évidemment, les fameux 4 composés des Polonais, des Hongrois, de la République tchèque et de la Slovaquie.
Oui.
Et eux refusent catégoriquement, notamment les quotas, c'est-à-dire la distribution. Alors je veux bien, d'ailleurs, tout à l'heure dans le journal, c'était très clair le résumé. On impose une solidarité, mais les pays vont faire ce qu'ils veulent, en gros. Alors, mais en même temps, je peux comprendre, parce que le phénomène migratoire, l'Europe le subit en réalité. Et la réponse européenne ne peut être qu'un compromis entre des visions différentes. Les pays de l'Est n'en veulent pas, on vient de le dire. Les pays de l'Ouest ont des prudences variables, notamment entre l'Allemagne et la France. Et forcément, ça produit des solutions bancales. Et le plan de Mme von der Leyen tient compte de toutes ces variations. Et c'est vrai que c'est quand même un travail de titan auquel elle s'est attaquée. Et il faut reconnaître qu'elle a trouvé quelques mécanismes, mais qu'est-ce que ces mécanismes vont devenir au fur et à mesure, si vous voulez, que les migrants vont arriver, ça, je l'ignore. Et je ne crois pas que ça va se passer très facilement.
Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un durcissement des règles, mais il y a aussi, c'est le point important que vous évoquiez, les pays qui ne veulent pas prendre leur part, hein, qui ne veulent pas accepter les quotas et les demandeurs d'asile,
toujours les mêmes, hein,
comme la Hongrie, la Pologne, vous l'avez rappelé, la République tchèque, devront participer financièrement à leur renvoi, ce qui pourrait faire grimper, dit-on, le taux de retour à 70%, donc être plus efficient. Juste rappelons simplement qu'aujourd'hui, tout de même, la pression migratoire est beaucoup moins forte, puisque ça a baissé avec l'an dernier seulement entre guillemets 139 000 arrivés sur le continent. On était à plus d'un million il y a 5 ans. Souvenez-vous, quand l'Allemagne avait accueilli à elle seule 1 million de migrants, Madame Merkel avait parlé de responsabilité et avait accueilli 1 million de migrants, ce qui lui avait valu après...
Oui, mais il faut, c'est vrai, vous avez raison, Julien, mais il faut tenir compte, si vous voulez, de la nouvelle offensive que ne manquera pas de déclencher le président turc Erdogan. N'oublions pas qu'il a perdu toutes ses municipales et les principales villes, le contrôle des principales villes turques, parce qu'il a 4 millions de réfugiés syriens et irakiens. Et c'est ce qui a fait que la population turque, si vous voulez, les électeurs turcs, lui ont refusé de toute façon l'hégémonie qu'il avait sur le plan de l'ancrage territorial.
Alors, Michel Cotta, comment expliquer que l'Europe ne parvient toujours pas à tomber d'accord sur cette question, qui est pourtant centrale de l'immigration ?
Oui, pourtant, quand on lit le texte, effectivement, il a été très bien résumé d'une façon compréhensible. Ceci étant, quand on voit les différentes mesures, on se dit que c'est une usine à gaz, ce nouveau pacte. Alors, effectivement, le pacte de Dublin, ça ne marchait pas, parce que ça a obligé les pauvres pays qui sont en première ligne, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, de traiter les dossiers sur place, ce qui est fou, parce qu'ils n'avaient ni le temps, d'où ces camps de rétention, d'où ces incendies, cet incendie...
Comme à Lesbos, il y a quelques jours.
À Lesbos, qui a horrifié tout le monde. Bon, mais là, objectivement, alors, il me semble qu'on sera... Sans doute, on résoudra le problème de l'immigration au fur et à mesure qu'il y aura moins d'immigrés. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que l'attraction de l'Europe diminue en ce moment, et surtout l'attraction de la France, et ce qui explique que finalement, c'est en France qui est le moins d'immigrants, alors qu'on en parle tout le temps, ça devient dans la vie politique, ça prend une importance terrible. Et puis,
tout ça est souvent lié aux conflits dans la zone Sahel et au Moyen-Orient. Hein. Quand on parlait de 5 millions de migrants qui arrivaient par la Méditerranée en l'espace d'un an, on est aujourd'hui à 160 000 à peu près. Et en France, on estime qu'il y a 330 000 étrangers en situation irrégulière à l'instant T dans notre pays.
Et en plus, il n'y a pas que. On pourrait comprendre à la rigueur que les pays d'Afrique noire viennent ici. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, le plus grand nombre d'immigrants, c'est des immigrants afghans, des immigrants qui se retrouvent, qui essayent de se retrouver en Angleterre, mais qui n'y parviennent pas et qui donc restent ici. Alors l'essentiel, finalement, il n'y a pas 36 trucs. L'essentiel, c'est de traiter leur dossier vite et de dire ceux qui restent et ceux qui partent.
Oui. Alors,
ceux qui ont le droit d'asile et ceux qui ne l'ont pas.
Il y a quand même un élément, et on en parlera dans quelques secondes juste après la pause, c'est l'aide au retour. Donner de l'argent aux migrants pour qu'ils acceptent de rentrer chez eux. Ça marche, dit-on. On en parle dans quelques secondes.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours ensemble en direct, évidemment, avec le débat des grandes voix à Charles Villeneuve ce soir à mes côtés avec Michel Cotta, et on parle de l'immigration. Pourquoi ? Parce que l'Europe a présenté aujourd'hui son pacte migratoire pour gérer et mieux répartir les migrants qui arrivent sur le sol européen. Alors, on en a parlé il y a quelques instants, vous étiez évidemment en direct avec nous. Il y a un point que je voudrais aborder avec vous, c'est cette aide au retour. En 2008, ça a coûté 500 millions d'euros à l'État français, les retours forcé. C'est la raison pour laquelle l'idée d'une aide financière pour inviter les immigrés qu'ils souhaitent au retour est mise en avant. Ça coûte, tenez-vous bien, près de 6 fois moins cher. C'est-à-dire qu'on leur offre 600 euros, 700 euros, 800 euros pour un total avec le vol, l'accompagnement qui coûte 2500 euros d'aide au retour. Un retour forcé, c'est 13 800 euros. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert les chiffres, Charles Villeneuve.
Bon, alors, il faut savoir aussi que ceux qui seront appelés, en quelque sorte, à retourner dans leur pays avec l'aide financière de l'Europe, Madame van der Leyen a mis un quota, en quelque sorte, c'est-à-dire que tous ceux qui ne satisfont pas au droit d'asile ne resteront et ne bénéficieront d'un droit provisoire que pendant 3 mois.
Oui.
Et au bout de 3 mois, donc, on les aidera à repartir dans leur pays. Mais il faut pas oublier que beaucoup sont là, certes, ne sont pas des réfugiés politiques au sens pur du terme, c'est-à-dire poursuivis dans leur pays, mais beaucoup fuient, notamment par exemple l'Afghanistan ou l'Albanie, à cause du système politique. Mmh. C'est-à-dire que la liberté, le droit de s'exprimer, la liberté de choisir son opinion politique, de l'exprimer, est impossible dans ces pays. Et il y a pas mal de jeunes, justement, qui voudraient venir étudier en Europe, et notamment en France, mais en Allemagne aussi, bien sûr, en Italie, et qui refusent justement cette liberté de penser qui n'existe pas, de s'exprimer. Donc, est-ce que eux, si vous voulez, ne resteront pas dans une position de clandestin? Bon, il y a ça. Et puis, il y a surtout une nouvelle émigration. Il y a une émigration qui a diminué, qui est en train de relativement disparaître, qui existe encore. C'est l'immigration africaine, Afrique noire, parce qu'il faut quand même reconnaître et encourager une croissance indéniable dans ces pays.
Oui.
Il y a une révolution économique qui s'est produite. Elle n'est pas encore suffisante. Mais par contre...
D'ailleurs, beaucoup disent que c'est la clé, hein, aider les pays depuis lesquels partent les immigrés pour qu'ils restent dans leur pays.
Il faut que l'opinion publique, notamment française, européenne, comprenne ça, justement. Il en va de l'intérêt d'aider tous ces jeunes gens. Ceux qu'on ne peut pas aider, d'ailleurs, moi je lis assez attentivement la presse francophone algérienne, et vous savez qu'il y a de plus en plus de jeunes Algériens, compte tenu de la pression aujourd'hui mise par les militaires, qui veulent venir en France, en Europe. La France, c'est quand même l'Eldorado des jeunes Algériens. Et beaucoup ont été interceptés dernièrement en Méditerranée. Et certains se sont même noyés, pas beaucoup, mais malheureusement.
Oui, oui. Michel Cotta, s'il y avait une baguette magique, c'est quoi la solution pour éviter cette immigration qui reste quand même massive aux portes de l'Europe?
Je crois qu'effectivement, la baguette magique, c'est d'abord le développement des pays d'où partent les gens. Ça, c'est évident.
Et ça ne peut pas se faire
si
du
facile,
jour au lendemain.
Voilà, si c'était si facile à faire, ce serait déjà fait, parce que moi, j'entends depuis des années, on entend parler d'aide au développement. Bon, quant au retour des gens, on sait très bien que souvent, les immigrés prennent leur pactole pour rentrer chez eux et puis reviennent 6 mois plus tard parce que la situation reste la même. Alors ça, c'est un problème. Et puis le problème essentiel, c'est les 3 mois de délai. Est-ce que 3 mois, ça suffit pour que tous les... Ça devrait, mais est-ce que 3 mois, il y a assez de fonctionnaires, assez de machines,
alors,
etc.
Justement,
pour faire
il y aura
que 3 000, mois, voilà.
Il y aura 3 000 agents supplémentaires.
Alors, il y aura des agents supplémentaires, mais il y a beaucoup de demandes, ça ne se traite pas si facilement. Souvent, on ne connaît pas l'identité. Le plus souvent, on ne connaît pas les âges. Parce que quand on dit qu'il y a beaucoup de migrants mineurs en France, ce sont de faux mineurs. Ils ont en réalité plus de 18
ans. Bien sûr, oui.
Donc, enfin, c'est dans les 3 mois que
c'est réside... vrai d'ailleurs dans le football international.
Il faut que les dossiers soient instruits en 3 mois, où que ce soit, et que les gens ne puissent pas s'évaporer dans la nature sans avoir de résultats. C'est ça le problème.
Dans quelques secondes, on parle de la Chirac Mania avec les grandes voix. 18h45, vous restez avec nous évidemment. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h48, on est toujours ensemble dans Europe Soir avec le débat des grandes voix. Charles Villeneuve à mes côtés ce soir et Michel Cotta. On va maintenant s'intéresser à l'héritage Jacques Chirac. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, car cela fait un an maintenant que le président de la République a disparu. Ce matin, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Claude Chirac, sa fille, lui ont rendu hommage. Une plaque en sa mémoire a été dévoilée au siège 99, sous les applaudissements, en présence d'Alain Juppé, de François Baroin et de Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée nationale et ancien collaborateur de Jacques Chirac.
Il y a évidemment une nostalgie de Jacques Chirac. Ça a été dit ce matin, tout le monde a été et ou sera chiracien, parce que Jacques Chirac, au fond, c'était la France. C'était la France dans sa grandeur, c'était la France dans sa simplicité, dans sa générosité. C'était aussi la France dans sa complexité. Chacun peut se reconnaître dans l'humanité qu'avait Jacques Chirac.
C'est toujours la même histoire. Quand un politique s'en va, il y a une espèce de consensus autour de sa figure. Et c'est évidemment le cas pour Jacques Chirac. Je parlais tout à l'heure de Chirac Mania. Alors que reste-t-il aujourd'hui de Jacques Chirac, de son héritage? Qui est son héritier aujourd'hui, Charles Villeneuve, Michel Cotta?
Ce qui me fascine le plus, c'est quand même le cas Chirac, le phénomène Chirac. Chirac est un homme politique qui n'a jamais réuni plus de 18 à 20% au premier tour d'une élection présidentielle. Et pourtant, c'est un des hommes les plus populaires qui soit. Alors, j'entendais ce matin, justement, le président de l'Assemblée nationale parler de D'Artagnan à son propos. Il disait, vous êtes comme D'Artagnan, vous avez dit la France pour tous pour la France, etc. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ce qui reste, c'est un personnage. Et le personnage... Alain Juppé dans son livre l'analyse avec une tendresse qu'on n'imaginait pas chez Alain Juppé.
Oui.
On n'imagine pas quelqu'un comme Alain Juppé s'adresser à Chirac avec ce sentiment filial en trouvant qu'il était un homme politique.
C'est une sorte d'exception quand même, Michel Cotta. Ils avaient un lien particulier, singulier, comme il l'écrit dans son livre.
Oui, mais ce qui fascine, on voit bien que ce qui fascine Juppé, c'est le côté animal politique qu'était Chirac. Et au fond, c'est ce qui fascine un peu la France, parce qu'il n'est pas vrai que la France se soit reconnue, comme l'a dit dans Jacques Chirac, tout le temps. Mais en tout cas, elle s'est reconnue à partir du, je pense, du dernier quinquennat, où justement, on voyait que ce qui était le plus important pour Chirac, c'était l'unité du pays. Alors, beaucoup de gens en disaient pendant ce temps-là, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy disait « c'est un roi fainéant », mais il se trouve que la France a gardé l'image de quelqu'un qui, plus que tout, sauvegardait son unité.
Oui, avec, il incarnait d'une certaine manière, c'est ce que nous rappelait Alain Juppé, qui a fait un grand entretien ici même, il y a quelques jours. Il incarnait l'esprit de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Charles Villeneuve? Et je répète ma question, qui est aujourd'hui l'héritier naturel, d'une certaine manière, dans le courant de pensée de Jacques Chirac? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se référence du gaullisme social. Xavier Bertrand, François Baroin, Valérie Pécresse, la liste est longue.
Mais en tout cas, moi, avant tout, si vous voulez, pour moi, Jacques Chirac reste le chef de l'État qui ne craignait pas d'avoir des positions fortes sur la scène internationale. Je vous rappelle le discours de rupture, le refus d'entrer aux côtés des États-Unis et George Bush Jr. en 2002 dans la deuxième guerre d'Irak.
C'est Villepin qui avait prononcé le discours aux Nations Unies.
C'est de Villepin à l'ONU. En effet, le discours de Jacques Chirac prononcé en Afrique du Sud le 2 septembre 2002, c'est quand même le premier, hein, n'en déplaise aux écologistes, le premier chef d'État français qui, au quatrième sommet de la Terre, dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Chirac est en avance sur tous ses successeurs. Et puis, si vous voulez, il y a quand même aussi, ni De Gaulle, ni François Mitterrand n'ont franchi le pas de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Ça s'est passé, si je me souviens bien, pour l'occasion du 53e anniversaire des Juifs. Il faut rappeler que la responsabilité de l'État français, c'était la déportation des Juifs de France vers l'Allemagne nazie et des camps de la mort. Puis moi, je dirais aussi que Chirac, c'est aussi un héritage sur la laïcité. Lui n'a pas attendu 3 ans pour interdire le voile à l'école.
Oui.
Et c'est Chirac qui a pris cette décision. Alors, qui est son successeur? Vous en avez cité une...
J'aurais pu en citer plein d'autres. Hein.
Une palanquée, oui, c'est vrai.
Alors qui?
Qui ne sont pas tous ses successeurs. Enfin, qu'on n'imagine pas comme ses successeurs.
Je pense que chacun peut toujours trouver un petit morceau de la veste de Jacques Chirac, bien sûr. Mais mettre sa veste pour rassembler tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a dit, et j'en ai passé pas mal, si vous voulez, parce qu'il y a même un art de vivre à la Chirac. On peut parler de l'art de vivre à la française.
Oui.
Je ne parle pas de la tête de veau vinaigrette. c'est pas ce à quoi je fais allusion. Mais qui? Alors, c'est une vraie...
L'héritier naturel, c'est François Baroin, évidemment. Oui. Parce que c'était son...
Baroin, en tout cas, Baroin, lui, vraiment... je crois qu'il a une partie des qualités vraiment sur le plan humain.
Il reste de filiation très fort.
Il reste, quand Michel on imagine Cotta. Justement François Baroin, les deux cas, François Baroin et Alain Juppé, même si Alain Juppé est hors course parce qu'il est au Conseil constitutionnel, il n'empêche que Baroin avait à un moment demandé à Jacques Chirac s'il pouvait se rapprocher ou de Balladur ou plus tard, comme il l'a fait, de Fillon. C'est sûr que l'image de Baroin n'est pas conforme à celle de Chirac. Ce sera très difficile pour lui de succéder s'il le veut. Et en tout cas, là, on dit qu'il ne le veut pas.
Bon, il y a Édouard Philippe aussi, qui pourrait être son petit-fils d'une certaine manière.
J'allais vous le citer parce qu'il y a peut-être une question de stature et de grandeur.
Oui.
Mais je crois que ça compte quand même quand on incarne.
Il a un dénominateur commun avec Chirac.
Lequel?
Son souvenir de l'armée. Il faut savoir que Jacques Chirac, dans une interview rare sur ce plan-là, sur son service militaire en Algérie, sur son piton dans l'Ouest algérien, dit « ça a été peut-être les 3 meilleures années de ma vie ». Et Philippe, qui dans son bureau à Matignon avait son sabre de lieutenant de Marsouin, puisque c'est un artilleur de marine, lui aussi est très attaché si vous voulez, à ce passage-là.
En revanche, je trouve aussi ce qu'ils ont de commun, c'est
qu'ils intéressant parce
su...
que Jean-Pierre Chevènement dit la même chose. J'ai passé 3 ans en Algérie, ça a été un déclic dans ma vie.
Non, c'est Michel aussi Cotta, ce qu'ils ont en commun. Je pense que c'est leur art de transgresser leur camp. Je vous rappelle que quand Jacques Chirac fait dire par Dominique de Villepin son discours à l'ONU, la plupart de ses proches, la plupart du parti sont contre. Les gens sont contre. Oui, moi, j'ai assisté à des scènes où ses principaux amis disaient « Nous, on est contre ». Il a transgressé son camp et d'une certaine façon, Édouard Philippe l'a fait encore plus, bien. Évidemment.
Chirac-Mania, je suis sûr qu'on n'a pas fini d'en parler, vous verrez. Merci à tous les deux. Merci Charles, merci Michel.
Europe 1, Julien Bugier.
Europe Soir qui continue évidemment dans quelques secondes avec le journal de 19h et juste après on ouvre le Club des Idées. Ce soir, l'autorité de l'État en question. A tout de suite.